Claude, on en parlait à l'instant avec François de Rugy. On commence par les chasseurs ce matin dans la presse.
Et la une de l'hebdomadaire L'Éveil, dans le centre de la France, me laisse rêveur sur la déconnexion entre les grandes actualités politiques et la vie petite mais bien réelle des administrés. Les chasseurs inquiets, c'est le titre du journal. Tiens donc, on se souvient, vous en avez parlé, que Nicolas Hulot avait démissionné, notamment en raison de la gentillesse du chef de l'État envers le lobby des chasseurs, auquel il avait accordé la diminution de moitié du prix du permis de chasse national. Eh bien, vu de la Haute-Loire, dans l'éveil et de l'expérience de Louis Garnier, président de la Fédération départementale des chasseurs, c'est une fausse bonne nouvelle. Explication. Si le permis de chasse national passe à 200 euros, le permis de chasse départemental de 195 euros, timbre grand gibier inclus, n'aura plus aucun intérêt. Or, c'est ce permis et ce timbre qui financent la Fédération et notamment ce qu'elle doit assumer, la réparation des dégâts que cause le gros gibier aux cultures, 300 000 euros en Haute-Loire la saison dernière. Comment faire si l'argent va directement à Paris? Et voilà un petit monde, 6000 chasseurs en Haute-Loire, bouleversés par un cadeau dont il n'a que faire, puisque la chasse, normalement, se pratique au coin de votre champ. Et la chasse nous raconte donc ce pays, la France, qui se centralise encore et toujours pour résoudre ses contradictions. C'est lumineusement expliqué dans Sud-Ouest ce matin. La FNSEA, grand syndicat des agriculteurs, a lancé l'offensive contre les chasseurs et leur gros gibier, ces sangliers qui piétinent le maïs ou ces cerfs qui blessent à mort les arbres. Et le gouvernement, l'État, a donc créé un comité national de lutte contre les dégâts du gros gibier, ce qui explique la centralisation des ressources de la chasse. Maintenant, tout va se régler à Paris. Et en Gironde aussi, on s'étonne, lige dans le Sud-Ouest, on n'a pas attendu ce comité pour travailler main dans la main avec les agriculteurs, ronchonne Henri Sabarot, qui préside la Fédération départementale des chasseurs de Gironde. Paris donc, ou la vérité des Gaulois du village, c'est une culture. Quand l'actualité vue par nos journaux nationaux est celle des splendeurs du pouvoir, et ces journaux racontent ce matin la confirmation du prélèvement de l'impôt à la source, par exemple, comme une aventure des puissants, ils prennent le risque, s'extasie le Parisien, Emmanuel Macron et Édouard Philippe étant ensemble à la une. Macron donne le feu vert, titre des Échos. Et Libération peut moquer en une Macron, un pot en avant, un pas en arrière. Et le Canard enchaîné ironiser sur le tango du président de la République. Ces quelques jours où le chef de l'État a hésité car il redoutait des avatars informatiques et les réactions de l'opinion. L'opinion, est-ce une consolation, est une contingence pour les grands dont parlent les grands journaux.
Et on parle, Claude, également des exploits sportifs d'un grand de ce monde.
Arrêtez tout, proclame Slate, c'est sur Internet. On a trouvé un domaine dans lequel Trump n'est pas complètement nul, et c'est le golf. Eh oui, le président américain est bon au golf, il faut dire qu'il y consacre du temps. Sur ses 590 jours de travail, Donald Trump en a utilisé 153 sur des parcours de golf, et cela paye. Il est, Sports Illustrated l'assure, le meilleur golfeur de l'histoire de la Maison-Blanche. Même Eisenhower, l'homme qui a libéré la France, n'aurait pas pu rivaliser avec lui. Mais évidemment, aucun hommage n'est sans équivoque, car Trump, qui s'est drivé, se comporte mal sur les greens. Il triche aussi un peu et il fantasme ses scores. Commentaire d'un journaliste qui a joué avec lui. Le monde de Trump est un univers parallèle, où la vérité prend des formes diverses. Quasiment aucune n'est basée sur la réalité. Et c'est ainsi que le golf de Slate rejoint le Washington Post, qui a publié hier des extraits du nouveau livre de Bob Woodward, une des légendes du Watergate, consacré au chaos de la Maison-Blanche. Il s'appelle « Fear, la peur ». Le Monde et le Figaro vous en donnent sur leur site la version française. On y découvre des conseillers qui maudissent le patron. C'est un idiot! C'est inutile d'essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Il a déraillé. On est chez les fous. Ou bien qu'il lui mente, ou même lui subtilise des documents au nom de l'intérêt national. Un de ses conseillers économiques a ainsi retiré de son bureau une feuille de papier que Trump s'apprêtait à signer pour sauver un accord commercial avec la Corée du Sud. C'est dans le Washington Post, Le Monde et le Figaro. Et le pouvoir ici n'est plus splendide, mais terrifiant de vacuité, mais est-ce encore le pouvoir? On a, en comparaison, nous autres Français, une infinie tendresse pour nos simples gouvernants et politiques et leur entêtement bien de chez nous. Et la Provence, ce matin, s'attarde sur un homme de 79 ans, élu pour la première fois en 1965, Jean-Claude Gaudin, toujours maire de Marseille, mais qui cède la présidence de la métropole, lieu du véritable pouvoir, c'est épuisant, et il part en vacances en Irlande, un peu inquiet quand même pour la suite. La politique, c'est toute ma vie, dit-il à la Provence, je ne joue pas au golf, le golf, évidemment.
Un vrai géant pour conclure, Claude.
Amazon qui possède, tiens, le Monde le rappelle, ce Washington Post qui publie, Woodward, mais surtout Amazon qui a passé la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Seul Apple avait atteint ce niveau auparavant. Et les échos racontent la transformation d'un petit libraire intello en un milliardaire possédant la plus grande fortune mondiale, Jeff Bezos, autrefois trentenaire gringalet à la calvitie précoce, désormais un homme musclé qui marche avec détermination. Quelle est la limite? En France, au bout de l'Empire, des petites gens tremblent comme on tremble toujours quand les pouvoirs s'ébranlent. Amazon dévore tout sur son passage, parole de Marie-Pierre Rebel, coordinatrice des libraires indépendants de Lorraine, qui raconte dans l'Est républicain cette cliente vosgienne qui un jour a quitté une librairie, mécontente de devoir attendre 3 minutes dans la file d'attente. « Je m'en fiche, je l'aurai dans 2 jours mon livre avec Amazon. » C'est irrationnel, mais ça existe. Il y a 45 libraires indépendants en Lorraine qui espèrent que la jeune génération ne va pas déserter et se console dans les zones rurales où le high-tech est moins présent et où la réouverture d'une librairie est une joie. Espérons.
Merci Claude pour cette revue de presse.